bah, pour bien se nourrir, il faut absolument des légumes. Je veux dire, on peut, évidemment, la viande est importante, mais on peut s'en passer. Les produits laitiers sont importants, sont très bons. Moi, j'adore les produits laitiers, mais on peut s'en passer, mais on ne peut pas vivre que de ça. Je trouve que les légumes, c'est vraiment la base de tout, en fait. Donc,
Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
Et moi c'est Julien, j'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
T'écoutes Les Mains Libres et ça commence tout de suite.
Après le générique.
Bonjour, pour ce deuxième épisode des Mains Libres, nous restons dans l'Allier au GAEC de la licorne. Lors de l'épisode 1 du podcast, beaucoup nous ont demandé la définition du mot GAEC. GAEC est l'acronyme de Groupement Agricole d'Exploitation en Commun. En gros, c'est une société agricole civile qui va permettre à plusieurs personnes de s'associer et d'avoir un travail en commun, que ce soit au niveau de la production comme de la vente. La dernière fois, nous avions vu Marc qui faisait partie de ce GAEC et qui s'est associé du coup avec Rodrigo, Cécile, Valérie et Estelle pour former le GAEC de la licorne. Cette fois-ci, nous allons à la rencontre de Cécile qui s'est installée il y a 2 ans en tant que maraîchère avec son mari Rodrigo. Cécile nous raconte le long processus de reconversion et sa motivation pour un besoin profond de retour à la terre. Elle nous explique les étapes de leur installation et la fierté qu'elle éprouve aujourd'hui de produire ses propres légumes. J'espère que ça va vous plaire et bonne écoute.
Notre question d'introduction qu'on aimerait bien poser aux gens, c'est pour savoir un peu ton parcours et l'historique. Comment vous en êtes arrivé là à faire du maraîchage dans l'Allier ?
D'accord. Alors, je vais essayer de faire court parce que c'est quand même une longue histoire. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a ce projet d'installation, de reconversion. Mais en fait, ça prend du temps, ça chemine un peu dans l'esprit et dans la vie de chacun. Rodrigo donc, est ingénieur de formation. Moi, je suis professeur de langue de formation et on a fait un long voyage qui a duré 1 an et demi il y a une dizaine d'années. Et c'est pendant ce voyage que ça a commencé à germer dans notre esprit qu'en fait, on aimerait bien faire un retour à la Terre. Mais donc, c'était même plus de 10 ans, c'était en 2006-2007. Donc, on faisait du woofing, justement, en Nouvelle-Zélande. Et c'est là que ça a commencé à germer.
On s'arrête 2 secondes. Petite définition pour ceux qui ont encore un doute. Le woofing, c'est un échange de bons procédés entre des agriculteurs et des gens comme nous, qui veulent en apprendre plus sur l'agriculture. On les appelle les woofers. Ils vont travailler dans une ferme, environ 20 heures par semaine, en échange du gîte et du couvert. C'est grâce à ce système qu'on a pu voyager de ferme en ferme pendant toute l'année. Et on vous encourage à tester cette superbe expérience pendant vos prochaines vacances.
Donc de 2007 à 2019, vous voyez, il y a quand même 12 ans qui sont passés quand même avant qu'on puisse vraiment s'installer. Ouais. Donc ça met du temps simplement parce que voilà, il y a d'autres choses de la vie qui interfèrent. Et donc après, on est revenu dans notre vie à peu près, entre guillemets, normale. On a continué à travailler dans l'enseignement, dans l'ingénierie pour Rodrigo. Et on a décidé, après quelques années, qu'on voulait rentrer en France, parce qu'on était au Mexique, parce que Rodrigo est mexicain. Et on est rentré en France, et c'est là qu'on s'est dit, on pense que là, il est temps de cheminer vers ce projet. Mais on peut pas passer de la ville à la campagne d'un coup de baguette magique. Donc nous, on était à Paris. On s'est reconverti direct. On est allé travailler dans des biocopes. Donc on était responsable de rayon dans les biocopes. Donc moi, j'étais au rayon sec, donc tout ce qui est épicerie sec. Rodrigo était plutôt fruits et légumes. Et c'est là, en fait, qu'on a vu un peu l'autre côté pas de la barrière, mais de l'autre côté de la commercialisation, c'est-à-dire que les clients, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les besoins au niveau du bio, etc. Et petit à petit, voilà, on a fait beaucoup de réseaux, on a eu beaucoup de contacts avec justement des producteurs de légumes, mais pas que. Et on a développé nos relations, notre réseau, parce qu'il y a un énorme engouement depuis quelques années pour un retour à la terre. Et en Ile-de-France particulièrement, beaucoup de gens, beaucoup de structures se sont mises en place pour accompagner ces porteurs de projets, ces personnes qui sont en reconversion. Et donc, moi, on a beaucoup profité de ça. On a fait beaucoup de formations. On a été accompagnés par diverses structures comme Terre de Liens, comme découveuses d'activités, et qui nous ont aidés surtout dans les démarches, dans les formations, dans... par quoi il faut commencer, parce que c'est vrai qu'un retour à la Terre, ça ne se fait pas si facilement. Et on a fait beaucoup de woofing aussi. Donc tout ça, ça a pris 3-4 ans. Quand même, pendant qu'on travaillait encore chez Biocoop, on a commencé toutes ces démarches, on a rencontré des gens qui nous ont fait rencontrer des gens, Donc ça a été vraiment une toile d'araignée qui s'est tissée autour de nous. Et petit à petit, donc en faisant du woofing, au début on voulait s'installer en Île-de-France, puis on a vu que ça n'allait pas le faire parce que l'Île-de-France, bon, les terres sont, il y en a peu, c'est cher, etc. Et nous, on avait très peu de moyens. Et donc on a fait du woofing, et c'est en faisant du woofing, justement en parlant autour de nous, qu'on a, dans le Puy-de-Dôme, donc à peu près à une demi-heure d'ici, on a rencontré un agriculteur, un maraîcher, qui nous a parlé de Marc, qui était installé ici depuis presque 46 ans. Et il nous a dit que lui cherchait à diversifier sa ferme. Donc ça, c'était en 2019 qu'on a rencontré Marc et qu'on s'est dit... donc il nous a proposé donc, de nous installer en maraîchage sur 3 hectares. Et on a réfléchi pendant une année, on a discuté, on est venu plusieurs fois. Et en 2020, on a dit banco. On a déménagé, on a tout mis dans un camion de 12 mètres cubes.
Longue étape. D'étapes, en fait.
C'était long, mais...
Je trouve ça très intéressant que vous ayez... vous êtes donné les moyens de rencontrer les bonnes personnes pour arriver à un endroit où vous vous sentez bien, j'imagine.
Ouais,
parce que
c'est
tout quand
à fait
ça qu'on ressent quand on discute.
Mais il y a eu beaucoup de difficultés aussi, mais il y a eu beaucoup de découragement aussi, mais on savait qu'on voulait faire ça et comme tu dis, on s'est donné les moyens et puis on a cherché des pistes en fait, tout le temps des pistes, de nouvelles pistes, des gens, des contacts qui nous menaient ailleurs, etc. Parce qu'il y a eu d'autres projets, il y a eu un projet d'installation en Île-de-France, il y en a eu un autre en Dordogne, et puis bon, maintenant on est dans l'Allier. On est très content d'être ici parce qu'en plus l'Allier, c'est pas l'endroit où la plupart des gens iraient s'installer. Hein, c'est pas, mais justement, c'est ça. Il y a l'espace, c'est très beau, et puis on fait un métier qui nous nourrit. C'est ça qui est aussi que c'est intéressant.
Tu disais, on est passé de la ville à la campagne. Mm-hmm. Il y a eu plusieurs étapes. Mais c'est quand même beau. J'allais dire vraiment la campagne.
Ah ouais, c'est profond.
C'est un changement très radical.
Moi, je sais que si je ne faisais pas ce métier, je ne vivrais pas ici. Ça dépend de quel métier on fait, mais c'est très, très beau. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu dur d'être très coupé du monde, parce qu'on est vraiment très coupé quand même de la ville. Mais ceci dit, bon, notre métier est tellement éprenant, mais passionnant, hein, parce qu'en plus, on est un collectif. Donc, il y a maraîchage, il y a les légumes, il y a aussi les animaux, il y a la grange à gens, donc avec les concerts et les assiettes. Donc c'est très, très, très varié, nos activités. Mais c'est vrai que c'est un choix de vie qui n'est pas facile à prendre. Avec le recul, quand on le prend, on est très content, on est très heureux de se lancer là-dedans. Mais c'est vrai qu'après, s'installer, s'intégrer, c'est pas toujours facile.
Tu parles d'un changement radical, j'ai envie de savoir... Techniquement, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on sait, mais on a besoin de savoir pour le transmettre. Ouais. Ça peut être en termes d'horaire, en termes d'activité. Concrètement, comment ça se passe ?
Comme on est un collectif, donc on a 4 activités principales. Donc déjà, moi, je suis maraîchère, donc ma fonction principale, c'est mon métier de maraîchère. Donc les commandes de semis, par exemple, là, on est en pleine commande de semis, c'est-à-dire pleine commande de graines, pardon, de semences. Donc ça prend énormément de temps parce qu'il faut prendre... les bonnes graines, ça coûte cher, donc il faut choisir les bonnes variétés. Il faut planifier toute l'année, ça prend énormément de temps aussi. En fait, il y a énormément de travail en amont au niveau du maraîchage, comme d'autres activités, mais je crois particulièrement au niveau du maraîchage.
Mais en tout cas, on n'en a pas l'impression de l'extérieur. Souvent, je pense que la plupart des gens ne pensent pas à quel point il y a du travail de bureau et de...
Extrêmement technique, parce que chaque légume est différent déjà. Donc, on ne fait pas pousser une salade comme on fait pousser des carottes. Une salade, en général, ça peut se faire en plein champ, mais ça se fait souvent en semis dans des godets ou dans des plaques alvéolées, alors que le radis, ça se fait en semis direct, par exemple, hein, ou les carottes, ça se fait en semis direct. Donc, un semis direct, c'est simplement, on sème directement les graines dans la terre. C'est le fait, en fait, que le maraîchage, en général, c'est du diversifié. On ne produit pas simplement 4-5 légumes. Quoi. Là, on produit entre 30 et 40 légumes pas tout le temps, mais sur toute l'année, un peu échelonnée. Donc il y a des périodes différentes, il y a des variétés qui peuvent se faire en hiver, d'un même légume par exemple, je ne sais pas, le radis, il y a des radis plutôt en hiver, d'autres en été. Il y a beaucoup de variétés de radis aussi, c'est un exemple que je donne. Il y a des carottes aussi, primeurs, donc il faut faire un calendrier. Enfin, on ne peut pas se lancer dans le maraîchage quand même, par d'être vraiment extrêmement, extrêmement ouais, organisé. Mais
ça demande beaucoup
d'organisation en amont et je pense de formation quand même. Donc nous, on a fait, Rodrigo s'est formé, il a fait un BPRA, hein, un brevet responsable d'exploitation agricole. Ouais. Et moi, je n'ai pas fait BPRA parce que, comme on est un couple, moi j'ai fait une autre formation à la ferme de Sainte-Marthe. Pour une installation, pour la création d'une ferme, une ferme en maraîchage diversifié. Donc voilà, donc, en tout cas, pour le maraîchage, il faut quand même être, avoir quand même une formation derrière et surtout pratiquer. Donc pour moi, le woofing, c'est la meilleure façon de pratiquer, quoi. C'est la meilleure façon, la plus simple. On peut en faire presque toute l'année. Et puis de toute façon, après on apprend sur le tas. Et puis après, il y a des très bons livres comme l'ITAB, c'est le livre, la référence pour les maraîchers bio. Puis il y a encore plein de lectures, et c'est faire beaucoup de lectures et continuer les formations. Même là, on continue à se former, s'auto-former, mais aussi se former à l'extérieur, chez d'autres maraîchers, ou faire des petites formations ici et là en fait. Et après, au niveau de notre collectif, il y a du travail de communication, ce qu'on fait beaucoup. Moi, je m'occupe beaucoup de la communication par rapport au marché, par rapport aux ventes, etc., par rapport à la partie culturelle, parce qu'on a une ferme agriculturelle, hein, parce qu'on fait de l'agriculture et du culturel. Donc voilà, ce qui est spécifique chez nous, c'est ce côté collectif qui fait que je fais du maraîchage, mais je dirais que c'est 60% de mon activité et 40% pour le collectif.
Ouais. Mais du coup, bien que vous travaillez ensemble et que vous puissiez chacun quasiment faire toutes les activités, vous avez quand même choisi le maraîchage au début. Du coup, ça m'amène à pourquoi le maraîchage. Notre question, c'est surtout à la base, pourquoi un métier manuel, mais pourquoi le maraîchage en particulier et qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi vous avez choisi ça?
Pour nous, c'est vraiment le maraîchage parce que on se nourrit, pour moi, on se nourrit avec les légumes, quoi. Alors évidemment, le pain, c'est super, le fromage, c'est super, la viande, c'est super. Mais moi, les légumes, ça a toujours été, je ne sais pas pourquoi, hein, cette diversité, toute la diversité qu'il y a dans les légumes, je trouve ça merveilleux. Les légumes et les fruits d'ailleurs, hein, parce qu'on fait du maraîchage, donc on fait aussi un peu de fruits. Donc une grande diversité au niveau de ce qu'on peut faire en maraîchage. On peut aussi faire des légumineuses, des lentilles, des pois chiches, etc. Donc on peut se nourrir finalement, on peut se nourrir et nourrir notre communauté. On pourrait, je dirais, alors qu'on peut, on pourrait, qu'avec du maraîchage quand il est évidemment bien fait. Là, on n'est pas encore rodé, mais un végétarien, il pourrait venir, dans quelques années, il pourra venir et se nourrir qu'avec ce qu'on a sur notre parcelle. Donc c'est cette attirance pour la diversité de ce métier, en fait, la diversité des produits, entre guillemets, enfin des légumes, parce que c'est pareil, il y a plein de types de carottes, il y a plein de types de radis, il y a des centaines de types de salades. Donc cette diversité, et puis le fait que pour bien se nourrir, il faut absolument des légumes. Je veux dire, on peut, évidemment, la viande est importante, mais on peut s'en passer. Les produits laitiers sont importants, sont très bons. Moi, j'adore les produits laitiers, mais on peut s'en passer, mais on ne peut pas vivre que de ça. Je trouve que les légumes, c'est vraiment la base de tout, en fait. Donc c'est cette attirance, voilà, le fait de pouvoir nous nourrir aussi, ça, c'était très important, de pouvoir être autonome au niveau légumes. Bon, on n'y est pas encore, mais ça va venir. Et de pouvoir nourrir notre communauté, hein, le mieux qu'on peut, de pouvoir continuer à apprendre de la terre et à s'adapter à ce que la terre nous offre, à ce qu'elle nous empêche de faire, de voir un peu ce qui est possible ou pas possible de faire là où on est, parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas encore, quoi.
Mais moi, je voulais revenir sur ce que tu parlais avant. Tu as dit tu passes 60% de ton temps au maraîchage et 40% au collectif. Mais est-ce que tu as un peu de temps pour toi?
Oui, alors c'est pas encore ça. Alors oui, alors effectivement, on a des loisirs, effectivement. C'est pas encore ça, parce qu'en plus, moi, je suis mère, je suis épouse et je suis femme. Donc j'ai ces trois fonctions. J'ai ma petite fille qui a 8 ans et puis mon mari. Donc on est un couple et on est une famille. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais j'ai la chance d'être dans un collectif qui comprend tout à fait ça. Alors déjà, mon mari est avec moi sur le maraîchage, donc c'est vrai que ça facilite un petit peu les choses, entre guillemets. C'est-à-dire que quand lui, parfois il descend sur le terrain, moi je peux rester et faire d'autres choses à la maison. On n'a pas beaucoup de temps de libre, mais voilà, le fait d'être associé dans ce collectif agricole, qui est un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, on est gérant, en fait. Donc le fait d'être gérant, moi, je vois une liberté que je ne connaissais pas avant. Je n'ai jamais été gérante, j'étais toujours salariée, donc dépendante des horaires. Alors ça a beaucoup d'incidence quand même, parce que on n'a pas la même protection, on n'a pas les mêmes salaires, il y a plein de choses qu'on n'a pas, mais le fait de pouvoir contrôler son temps soi-même, c'est quand même quelque chose qui est appréciable. Et des loisirs un petit peu, parce qu'on s'est forcé à avoir des loisirs, parce que maintenant on prend tous, à part mon mari, on prend tous des cours de piano depuis septembre dernier. Et on va faire un concert en juin, si vous voulez revenir. Mmh. Alors on n'est pas des grands virtuoses, mais voilà. Donc un peu de loisirs, c'est ça. Et puis, du bon temps, pas énormément, puisqu'il y a eu donc, cette période avec le Covid. Mais en même temps, on est dans un endroit tellement merveilleux. Et avec tous les gens qui viennent, on a beaucoup de gens qui nous rendent visite, parce que beaucoup de gens autour de nous, amis, famille, woofers, sont très intrigués par notre projet. Ils viennent nous rendre visite et ça nous permet à nous de faire des pauses et de les emmener non seulement sur notre exploitation, enfin sur nos terres, mais aussi vers les gorges de la Soule un peu plus loin, le pont de Menat, le château Rocher. Quand on a nos concerts, c'est aussi une partie, même si on travaille, on sert les gens, c'est aussi un petit moment où on a un peu pour nous, en fait, les concerts à la grange le troisième samedi du mois.
Et ça me fait revenir un peu à la gratitude ce midi, il me semble, quand on a déjeuné, on parlait de à peu près ce sujet-là, et t'as dit, il faut se faire un bisou sur la main.
Ouais.
Et j'ai trouvé que c'était très beau, parce que ça représente très bien. En fait, les choses sont rapides, on a toujours 1000 choses à faire, etc. Et je vais préciser d'ailleurs que là, on est en train d'enregistrer, mais que tu voulais faire d'autres choses en même temps. Et que,
j'ai dit
en
non.
En fait, c'est important de prendre chaque chose en son temps. Et en même temps, c'est pas comme ça que vous faites, parce que vous avez toujours 1000 choses à faire. Et l'histoire du bisou sur la main, je trouve ça très bien, parce que ça représente hyper bien le... En fait, on a l'impression qu'on n'a jamais le temps de rien faire, mais il faut de temps en temps prendre une pause et se rendre compte du travail accompli.
Ouais. Parce que et puis en plus bon c'est voilà j'ai un peu comme beaucoup de gens j'ai fait de la méditation j'ai un peu réfléchi sur parce que j'ai 50 ans quand même maintenant donc j'arrive à un moment où on se pose des questions sur la vie sur ce qu'on a fait etc donc une des choses que j'ai lues dans toutes mes lectures etc sur comment avancer dans la vie de la meilleure façon de la manière la plus sage c'est qu'il faut de temps en temps s'auto féliciter. Et je le fais avec de l'humour, donc les gens, ça les fait rire et ils le font aussi. Mais c'est important parce que c'est vrai qu'on a toujours peur, on veut être humble, on dit « Ah non, il ne faut pas montrer que ça fait trop mise en avant ». Mais bon, moi, quand mes carottes sont bonnes, les gens le disent, je le dis aussi. Donc je me fais un bisou sur la main.
Du coup, on parlait un peu de financement. Est-ce que vous y arrivez au niveau de l'argent
Oui, comment tu te sens par rapport à ça, à ton métier, ton travail Bon, il y a le salaire, mais il y a aussi les contraintes. Mm-hmm. Est-ce que tu as atteint ce que tu voulais atteindre? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Il manque quoi pour que ce soit vraiment le job de rêve, on va dire? Ça, c'est un truc qui nous semble important parce qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui ne savent pas trop. Voilà. Mm-hmm. Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être des contraintes pour toi, qui ne vont pas l'être pour d'autres
gens. Tout à fait,
Et voilà.
Au niveau du financement, justement, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est un peu lancé avec Marc. C'est parce qu'il nous facilitait un peu notre entrée dans sa sphère, en fait, et puis dans le GAEC. Hein, parce que pour rentrer dans le GAEC, donc ce groupement dans lequel on est rentré, ce collectif agricole, il fallait acheter des parts. Et même l'accès aux terres est compliqué quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a même pas d'argent de côté. Il y a éventuellement Terre de Liens qui peut, l'association Terre de Liens qui peut aider, mais trouver des terres qui soient satisfaisantes à tous les points, c'est-à-dire qu'il y ait le lot, que ce soit dans un endroit joli, parce que pour moi, ça c'était vraiment important. Moi, on a trouvé des terres à un moment, mais c'était pas dans un endroit qui était très beau. Et là, vraiment, on peut pas demander plus, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc, l'arrivée ici, elle s'est faite avec très peu de moyens. Je veux dire, on a déménagé nous-mêmes, on a loué un camion. On a pas mal réfléchi aussi. On avait un peu d'argent de côté. On a eu des facilités de paiement, on va dire, pour acheter nos parts, des parts sociales pour rentrer dans le GAEC. Et comme, de toute façon, on n'a pas eu l'aval des banques, hein, les banques ne nous ont pas soutenus dès le début pour nous installer en maraîchage, ben on a fait un financement participatif. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens qui rêvent ou pas de s'installer comme nous, ou dans le maraîchage ou autre, et qui nous ont soutenus. Il y a encore des gens qui continuent à nous soutenir. Et donc, on a fait un financement participatif pour acheter du matériel d'occasion à hauteur de 16 000 euros. Donc, on a eu même plus que 16 000 euros. Et avec ça, on a acheté le matériel d'occasion qui nous a permis de démarrer l'activité. Donc là, il y a encore plein de choses qui se font un peu système D, un petit peu avec de la bidouillerie, mais ça marche. Donc, tout n'est pas parfait, mais on arrive avec cette combinaison de l'aide des citoyens et puis nos capacités, nos compétences et l'aide des woofers, parce que les woofers nous apportent énormément aussi, donc ils nous permettent d'avancer. Donc, cette partie-là, voilà, la partie, on va dire, installation au maraîchage, elle est en cours. Ça commence à tourner, puisqu'on commence à vendre depuis mai 2021, donc depuis presque un an. Donc on a de l'argent qui rentre un peu, donc voilà, on commence à pouvoir se payer un petit peu, hein, quelque chose là, c'est pas énorme, mais on commence à se payer chaque mois quelque chose, et on espère que ça va aller en augmentant, et ça je pense que c'est grâce au fait qu'on est un collectif, parce que comme on est un collectif, tout ce qu'on gagne, que ce soit au maraîchage, que ce soit produits laitiers, que ce soit pour le pain qui arrive et pour la viande ou le lait, va dans le même pot commun, et c'est de là qu'on sort nos entre guillemets, c'est pas des salaires, parce qu'on n'est pas salarié, c'est là qu'on se prélève en fait, et on a décidé tous qu'on se prélèverait la même chose.
Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est un peu comment dire, ne pas hésiter à se lancer en fait, on fait les choses et on avance, on voit si ça marche,
c'est ça.
On n'attend pas d'avoir tout sous la main pour démarrer.
Ah ouais.
Et je pense que c'est ce que je retiens un peu de cette rencontre.
Tout à fait,
D'être ici, quoi. Parce qu'il y a plein de choses. C'est que je trouve incroyable, pardon, vous avez cette énergie-là de faire avec ce que vous avez. Et,
c'est vrai.
Et ça présage de beaucoup pour la suite. Parce qu'on se dit, en fait, vu qu'ils, entre guillemets, ils font sans regarder, mais en fait, ils vont faire plein de choses.
Ouais, c'est un peu ça. Alors, on essaye de planifier un peu plus, parce qu'il y a des choses quand même qu'on voit bien que ça pourrait mieux fonctionner si on était mieux organisé. Mais on nous définit comme un collectif organique, c'est-à-dire que on n'est pas intellectuel, on n'est pas avec des grands, on a un petit tableau quand même, on commence à s'organiser, mais où on fait beaucoup de choses de manière spontanée, et puis on n'a pas peur de se lancer, parce que je crois qu'il y a aussi nos âges, entre guillemets, qui font ça. Rodrigo et moi, on a une carrière derrière nous, on a travaillé en entreprise, etc. Marc aussi, Valérie aussi, donc je pense qu'il y a ça aussi, cette maturité de la vie qui fait qu'on a moins peur. Je pense, et puis là, actuellement, je pense que les jeunes qui veulent se lancer, pour moi, c'est beaucoup moins compliqué, parce que je trouve qu'il y a justement toutes ces structures qui sont en train de se développer, de s'installer un peu partout. Et ça donne de l'espoir déjà, et ça donne, c'est des exemples à suivre. Et puis, c'est surtout parce que c'est vrai qu'on a reçu des gens, des woofers, etc., qui doutent énormément sur l'installation parce qu'ils ont peur, voilà, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent, Je veux dire, nous, si on s'était dit qu'on n'allait pas faire ce projet parce qu'on n'avait pas assez d'argent, on ne serait jamais là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je pense qu'il y a la foi, en fait. Pas la foi en Dieu, mais la foi qu'un projet peut avancer et peut se développer parce que on a confiance on a confiance au monde qui nous entoure et surtout les rencontres. C'est ça, c'est si on n'avait pas eu confiance en Marc, c'est qu'on a rencontré Marc et on a eu une sorte de contact avec lui qui a fait que, on s'est dit c'est un bon endroit. Après, tout n'est pas parfait, mais voilà, on sent vraiment que les choses avancent et les choses évoluent, et puis il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, des artistes qui viennent vers nous, des gens qui commencent à être très intrigués par tout ce qu'on fait, donc c'est vraiment sympa.
Et je pense que du coup, on va terminer... On va terminer sur ça. On a notre question de clôture, parce qu'on s'appelle Les Mains Libres et c'est pas pour rien. On est aussi là pour parler des mains et on voulait savoir qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes mains par rapport à ton métier, qu'est-ce que ça t'inspire et...
Ok.
Et voilà. On te laisse.
Ah, j'ai mis des gants.
Retirer tes gants.
Alors, qu'est-ce que je peux dire sur mes mains? Elles sont multifonctions, je dirais. Parce que ces mains, elles font du piano, elles font la vaisselle. Et elles ont les mains dans la terre. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est que la terre, en fait, c'est pas sale. C'est quelque chose de très malléable. Et puis, et la terre apporte beaucoup. Donc, et puis, même si j'ai des petites mains qui sont pas parfaites, qui commencent à être très rugueuses, alors qu'avant, elles étaient toutes douces. J'aime bien en fait. J'aime bien mes mains et j'y fais très attention parce que je sais que si j'avais pas mes mains, je pourrais pas faire de piano et je pourrais pas planter des légumes.
Bah merci beaucoup.
Bah je vous merci en prie. Beaucoup, bravo pour merci ce projet. Bien.
Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 2 des Mains Libres en compagnie de Cécile. Encore une fois, si tu as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour n'en rater aucune. Tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour faire connaître le podcast, ça ferait super plaisir. Cet épisode a été financé par Léana, Béatrice et Jean-Christophe, qu'on ne remerciera jamais assez pour leur soutien, leur petit message tout au long du voyage et leur accueil au mois de janvier quand il pleuvait beaucoup trop pour vivre dans notre camion Poppy. Alors merci infiniment. Dans le prochain épisode, on fera un petit détour par le Puy-de-Dôme à la rencontre d'Odile, qui a monté sa maroquinerie du joli nom de Crocopic. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode.